Welcome everybody. Let's get organized.
Bienvenue à tous. Organisons-nous s'il vous plaît. Alors, réunion du bureau d'administration avec le groupe des parties prenantes commerciales. Alors, comme d'habitude, on préfère vous écouter. Donc, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup, Steve, et merci à tous les membres du conseil d'administration. Nous sommes heureux de cette opportunité pour partager avec vous nos préoccupations. Et il y a une question sur laquelle on aimerait se concentrer aujourd'hui. J'aimerais dire également que nous avons déjà consacré beaucoup de temps sur tout ce qui concerne la transition NTIA. Et donc, c'est une question qui nous préoccupe, à laquelle on veut participer, mais on pense qu'on a déjà consacré tant de temps, tant de séances, des heures entières, qu'il serait plus utile de se concentrer sur d'autres questions qui ne reçoivent peut-être pas autant d'attention. En particulier aujourd'hui, nous aimerions aborder des questions qui concernent les pratiques multipartites et certaines questions que l'on aimerait aborder avec vous concernant la responsabilité et la transparence. Donc, on va écouter un certain nombre de nos membres qui vont nous faire part de leurs perspectives et vont soulever certains problèmes. Donc, première question sur les pratiques multipartites. Deuxième question que nous allons aborder, on va être un peu plus technique, on va aller un peu plus en profondeur et on veut vous parler de certaines questions que l'on continue à observer autour des nouveaux GTLD, en particulier le fait que du fait que nous provenons de la communauté commerciale, des sociétés, de la propriété intellectuelle, beaucoup d'entre nous sont très préoccupés par cette question et on y consacre beaucoup de temps. Donc voilà les questions que l'on voulait vous soumettre. Voilà nos deux questions que l'on voudrait aborder avec vous et on aimerait écouter le point de vue de toute une série de nos membres qui appartiennent à notre groupe. Steve Crocker au micro, parfait, c'est très réconfortant de savoir que vous ne voulez pas parler de la transition de la gestion des fonctions de l'INA. Et le message que vous avez transmis, dans quel ordre vous voulez procéder? Bien, je passe à la première question. Comme je l'ai dit, les pratiques multipartites et Steve va nous parler des principaux sujets qui tournent autour de cette thématique. D'abord, Peter qui va nous parler de responsabilité, puis Steve sur la transparence et le désir, la volonté de transparence et d'ouverture, et plus spécifiquement tout ce qui concerne la responsabilité du CEO et du conseil d'administration. Steve Del Bianco, merci. Nous avons soulevé un certain nombre de préoccupations et les défis qui se pose par rapport à la déclaration du département du commerce et la transition. Et pour nous, il s'agit d'appliquer le modèle multipartite. Donc, les trois thématiques que l'on va couvrir avec Peter sont celles-ci. Je vais commencer avec avec le panel de haut niveau sur la stratégie. Nous avons nommé des experts avec une approche multipartite ascendante. Les autres membres font partie de la communauté. Donc, au fil de la semaine, nos préoccupations sont apparues de plus en plus évidentes, à savoir que le type d'analyse et de recommandation de ce panel multipartite sur la stratégie ne pouvait pas être immédiatement mise en œuvre par le conseil d'administration, c'est clair, mais qu'il devait être soumis aux commentaires publique et qui pouvait donner lieu à des résultats ou des conclusions intéressantes, et qu'ensuite il y aurait des recommandations, je ne sais pas si par l'intermédiaire de ce panel, et que ces rapports seraient publiés par l'ICANN. Et lorsque l'on a analysé les rapports, on a analysé le fond et la forme. Et le fond concernait une évaluation de la situation dans le monde actuellement. Et nous avions quelques objections, des réserves par rapport à la description qui était faite. Par rapport aux recommandations, nous avons été préoccupés par la façon dont ces préoccupations étaient transmises. Devons-nous faire part des préoccupations des bureaux d'enregistrement par rapport à la situation actuelle? Mais notre principal message au conseil d'administration serait que, étant donné ce qu'on a entendu au cours de ces derniers jours, il s'agit uniquement d'idées depuis l'extérieur qui sont intégrées dans le cyberespace de l'ICANN. Et quel que soit le contenu du rapport, ce contenu du rapport ne peut pas être pris en exemple comme recommandation ou déclaration de l'ICANN, qui ensuite pourrait être utilisé par d'autres comme des idées de l'ICANN. On peut utiliser ces idées et les faire passer par le processus multipartite ascendant. Mais ici, ce qu'il est important de dire, c'est que il s'agit uniquement d'idées qui sont lancées. Si la communauté reprend ces idées et les introduit dans le processus, alors elles auront un impact. Mais je suis sûre que je voudrais que le conseil d'administration nous confirme que nous avons bien compris les choses et que vous êtes d'accord. Steve, au micro. Oui, ma réponse est oui. Bruce Tonkin au micro. Oui, merci de soulever cette question. J'ai participé à la séance d'hier où un certain nombre de membres du panel ont présenté leurs travaux. En particulier, j'ai entendu le retour d'informations du public. Il y a deux choses qui m'ont frappé. Beaucoup du contenu de ce rapport ne concerne pas la stratégie. Il s'agit d'idées pour mettre en œuvre la mission de l'ICANN. Si on parle de la mission de l'ICANN, il y a toute une série de choses qui concernent ce qu'on peut faire et la manière de mettre en œuvre cette mission. À bien des égards, il a été dit que ce type de travaux étaient des réflexions. Et c'est le cas. Il s'agit de documents qui reposent ou dépendent de beaucoup d'expérience et d'expertise, et il s'agit d'excellentes réflexions. Mais pour revenir à votre question, il ne s'agit pas de recommandations approuvées par le conseil d'administration. Le conseil d'administration n'a pas approuvé ces édits. Par rapport au fait d'approuver cette stratégie qui est présentée, la communauté a suivi le processus multipartite pour apporter des contributions au plan stratégique, et au cours des séances qui ont eu lieu lors des dernières réunions publiques, il y a eu ces contributions et cela va être publié pour commentaire. Mais il s'agit d'un plan stratégique qu'on est en train de prendre en considération, qui va être soumis aux commentaires publics. Et dans le cadre de ce plan, on va reprendre le matériel qui provient du processus multipartite ascendant. Donc ça fait partie du plan et vous pouvez faire des commentaires là-dessus et apporter des changements. Concernant votre question par rapport à l'intérêt de faire des commentaires sur le document provenant de ce panel. Effectivement, parce que ces panels vont actualiser ces documents en fonction des commentaires qu'ils reçoivent en retour. Mais je crois que l'on utilise ces contributions aussi bien dans le processus des GNSO. Par exemple, ici, on explore la meilleure façon d'avancer, et je crois que c'est utile d'utiliser ces documents dans vos processus. Donc faites des commentaires dessus, mais il ne s'agit absolument pas de recommandations approuvées. Le plan stratégique approuvé va bientôt être publié. Bill Graham au micro. Oui, il est bon de prendre en considération ses contributions et j'espère que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le processus du plan stratégique est en train d'être pris beaucoup plus au sérieux et on va beaucoup plus au fond des choses cette fois-ci. Donc, c'est peut-être une bonne chose, c'est utile, mais je pense qu'il est très important que ces contributions au plan stratégique et toute décision ou développement politique qui découle de cela soit fait au sein de la communauté et dans conformément à la politique de l'ICANN et conformément à la manière de travailler de l'ICANN. Il est bon d'exprimer son point de vue pendant la période de commentaires, mais je n'irai pas aussi loin pour dire que le conseil d'administration va approuver toutes ces recommandations. Et je vois des termes et des phrases qui ont été soumises aux commentaires publics. Certaines me semblent peut-être inappropriées d'ailleurs. Alors Steve, si vous le permettez, peut-être que certaines concernent le plan stratégique. Il s'agit de recommandations très techniques qui éventuellement peuvent être utiles concernant la transition de l'IANA et le travail que l'on effectue avec nos partenaires multipartites. Steve, Fadi, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Ray au micro. Oui, je voulais faire quelques commentaires. Les commentaires sont utiles, extrêmement utiles, parce qu'ils précisent un petit peu les choses. Donc, de ce point de vue, le rapport est extrêmement utile pour préciser et clarifier les choses. Mais il ne s'agit pas de savoir si le conseil d'administration approuve ou pas. Mais il y a des aspects par rapport au plan stratégique qui sont intéressants parce que peut-être qu'on va mettre en œuvre certaines des recommandations qui sont contenues dans ce rapport pour la mise en œuvre du plan stratégique. Et certaines de ces recommandations peuvent s'avérer très intéressantes, d'autres moins. Mais ça va être renforcé et étayé par les commentaires. Donc, c'est un outil que l'on devrait utiliser pour essayer de faire avancer les choses. Alors, Steve, au micro, vous avez parlé de réfutation, du terme réfutation, mais en fait, ça n'est pas grave que l'on réfute certaines choses puisque ça n'est pas approuvé par le conseil d'administration. Oui, mais c'est une idée, donc ça fait partie du discours. Ray au micro, et s'il y a des choses auxquelles vous vous opposez, il faut le dire. Alors Steve, faut-il réfuter les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord? C'est une question. Steve, oui, je comprends bien ce que vous dites. Moi, je vois beaucoup de mails circuler et je choisis avec beaucoup de soin ceux auxquels je veux répondre. Donc, il s'agit d'une décision qui vous est propre. Vous choisissez les points sur lesquels vous voulez répondre. Ce type, d'ailleurs, ce commentaire s'applique pas seulement à ce panel, mais aux avis également que nous recevons de la part des groupes de travail des experts. Donc, on obtient des contributions de tout le monde. Et la question est récurrente, à savoir quel est le statut ou l'autorité de ces éléments. Et la réponse est la même. Il est très bon d'avoir ce type d'avis, mais ils n'ont aucune autorité tant qu'ils ne sont pas passés par le processus approuvé. Et donc, ils ne sont pas contraignants Mais ce n'est pas parce que un groupe de personnes dit telle chose que cela va être forcément approuvé et mis en œuvre. Cela étant dit, ce type de panel, et je peux vous le dire, sont constitués par des personnes très bien intentionnées, très chevronnées, qui ne représentent pas forcément les unités constitutives en question. Mais ils essaient de faire de leur mieux. Donc si vous pensez qu'ils ont oublié quelque chose et qu'ils sont à côté de la plaque par rapport à quelque chose, il serait très constructif de leur dire, mais vous n'avez pas l'obligation de le faire. Donc il s'agit d'un processus qui repose sur la coopération. Chérine, au micro, oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que le document nous invite à faire cela. Et on aura la possibilité de faire d'autres commentaires sur ce document. Et il s'agit de l'unique document qui serait contraignant pour nous tous. Bien. Nous avons un certain nombre de thématiques que l'on aimerait aborder. J'aimerais écouter le point de vue de Peter, Steve, Phil, pardon, et Brian. Peter, Steve vient de parler de ce panel sur la stratégie. Et on a vu ce type de cas où il semble que le processus de responsabilité de transparence a été un petit peu fracturé. Or, ces deux aspects ne peuvent pas être séparés. Je crois comprendre que le CEO est responsable vis-à-vis du conseil d'administration. Et les membres du conseil d'administration sont responsables vis-à-vis du processus de prise de décision qui repose sur le consensus. Ça fait partie de la politique de l'ICANN. Et les membres du conseil d'administration sont responsables vis-à-vis de la communauté. Donc, le fait de savoir si le membre du conseil d'administration sera responsable vis-à-vis de la communauté et que le CEO est responsable vis-à-vis des membres du conseil d'administration, là, il semble que cela pose un certain nombre de questions graves. D'ailleurs, on va en parler plus spécifiquement après, mais j'aimerais attirer votre attention là-dessus maintenant, parce qu'on semble sous-estimer un problème important alors que ICANN essaie ou commence à étendre ses fonctions en dehors du système des noms de domaine. Donc, on veut s'assurer que ces systèmes sont en place et qu'il y a réellement une responsabilité, de sorte que toutes les actions du conseil d'administration, du CEO, servent à renforcer ce processus multipartite ascendant avant d'étendre le rôle de l'ICANN dans la gouvernance Internet et dans les fonctions de l'IANA. Steve, laissez-moi être franc et honnête. Nous pensons, et je parle au nom du conseil d'administration et du CEO, que nous souscrivons pleinement au principe. Mais il est évident, là encore, pour être honnête, qu'il y a certaines observations, certaines circonstances qui vous poussent à dire ce que vous dites. Il y a un certain nombre de déclarations qui partent du principe que nous avons violé ces principes. Et c'est une situation très inconfortable parce que on pense qu'on est en train de le faire, en train d'appliquer ces principes. Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Donc, si vous dites que l'on n'adhère pas à ces principes, ce n'est pas très constructif. Donc, j'attends la prochaine réaction, parce que j'aimerais savoir ce qui se cache derrière tout cela. Oui, on parle en fait de certaines questions qui nous préoccupent.
Any talk of the expansion.
Je crois que tout débat sur l'expansion du rôle de l'ICANN, vous avez dit à deux reprises, et c'est Fadi au micro, que il y a une expansion du rôle de l'ICANN. C'est très dangereux que le monde écoute ce message alors que le gouvernement vient de nous confier une mission très importante, que l'on essaie d'étendre ce rôle. Ça n'est pas le cas. On est en train de s'en tenir uniquement à notre mission. Lorsque vous dites que le conseil d'administration est approuve ce genre de choses, c'est très dangereux également. Parce qu'il s'agit de choses différentes, parce qu'il ne s'agit pas d'approuver ou non personne. Donc faites très attention au choix des termes que vous utilisez. Steve, au micro, excusez-moi, j'ai oublié de répondre immédiatement. C'est un exemple qui ne reprend pas forcément ce que je voulais dire. Dire quelque chose comme si c'était une vérité, alors que c'est pas forcément le cas. On n'est pas en train d'étendre les fonctions de l'ICANN, comme l'a dit Fadi. Et le conseil d'administration ne s'affranchit absolument de rien, comme Fadi l'a dit. Elisa, au micro, oui. C'est un sentiment que l'on a en partie parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Et peut-être que c'est ce que Phil voulait dire en termes de transparence. Phil Corwin au micro. Oui, merci Elisa. Oui, ça reprend un petit peu ce que j'ai dit au micro hier. Et aujourd'hui, je parle au nom de tout le groupe des parties prenantes commerciales. Fadi a dit qu'il n'y a pas de légitimité sans responsabilité. Et il a tout à fait raison. Mais il ne peut pas y avoir de responsabilité sans transparence. Ce n'est pas suffisant que la communauté connaisse les décisions qui sont prises. Il faut qu'elle sache comment ces décisions sont prises. Le conseil d'administration a eu un débat très approfondi avant d'autoriser le programme des nouveaux TLD. Il y a eu des opinions très divergentes. Et il y a eu acceptation de la légitimité de cette décision. Et il est bon qu'il y ait divergence en public. Ça fait partie du processus qui donne une légitimité à ce processus. Il y a une résolution du conseil d'administration en septembre dernier. Et cela a montré que le conseil d'administration ne voulait pas révéler les résolutions prises et n'a pas voulu montrer le procès-verbal de cette réunion. Donc, la communauté n'a pas été convaincue par les raisons qui ont été avancées pour justifier cette décision. Et ces actions ont été découlées finalement des révélations de la NSA. Et tout cela a été rendu public au moment de la réunion d'Urban. Et il y a eu un retour d'information par rapport à ce que l'on fait pour préserver le modèle multipartite. Mais je crois que finalement, l'impression selon laquelle l'ICANN, dans son processus de politique, joue un rôle important en termes de politique publique et qu'on voulait ouvrir les organes politiques sous forme de réunions, réunions à distance, réunions audio, pour que les décisions politiques publiques soient connues et plus transparentes et ouvertes. Donc il faut qu'il y ait une véritable transparence, que ce soit sous forme peut-être de vidéoconférences, qu'il y ait des transcriptions, des débats au sein du conseil d'administration et que les décisions qui sont prises soient expliquées et qu'on puisse comprendre également la position des différents membres du conseil d'administration, comment les membres du conseil d'administration ont réagi face aux commentaires faits par la communauté. Donc ici, ce qui est important, ça n'est pas de révéler simplement les décisions, mais de révéler la manière dont ces décisions ont été prises. Donc pour le CSG, ce qui est important, c'est que l'ICANN doit être davantage transparent, que tout ce processus de prise de décision doit reposer sur un processus de transparence beaucoup plus évident et profond. Il serait très bon pour l'ICANN en tant qu'institution et pour le conseil d'administration pour renforcer la compréhension et l'acceptation de la part de la communauté des décisions du conseil d'administration. Merci.
Steve Crocker, j'aimerais soulever deux, trois points et de répondre, de façon à répondre, et ensuite demander à Fadi et d'autres de répondre. Ce que j'ai bien compris, mon avis, le problème général des processus du bureau, du conseil, en ce qui s'agit de la prise de décision. Qu'est-ce qui est fait donc de façon visible et ce qui est fait de façon privée? Par exemple, un problème spécifique, comme une des résolutions, par exemple, que nous avions prises l'année dernière, à l'automne dernier, lorsqu'il s'agissait des décisions après Montevideo. Bon, ça, c'est une autre discussion, mais enfin, bon, il y a aussi un troisième élément dont je laisserai. Ça fait plus de 10 ans que je suis au Conseil, tout d'abord en tant que liaison non-votante et ensuite en tant que membre votant et en tant que directeur, donc dirigeant du Conseil. J'ai eu la chance de regarder, d'observer le Conseil de façon très proche, et des opérations du Conseil et de la CAN et du personnel aussi. Donc le modèle de base que nous avons pour cette organisation, c'est que le vrai travail n'est pas fait par le Conseil. L'idée que le Conseil soit un élaborateur donc de politique n'est pas forcément ce que c'est quelque chose que nous essayons de pas, nous essayons pas de voir les choses comme ça. En général, et par le débat qui vous intéresse, les débats qui vous intéressent se passent ici, avec les organisations de support. Et une fois que les choses arrivent au Conseil, il ne devrait pas encore, il n'y reste pas grand-chose qui n'est pas enregistré, disons. En conséquence, les décisions du Conseil sont très prédictibles et pas intéressantes, prévisibles et pas intéressantes. Ce n'est pas vraiment là où les choses, où il y a de l'action, en fait. Donc, je vais donnez-vous plus de détails dans comment le conseil opère. Nous avons des réunions, nous faisons des annonces, nous publions des annonces, et nous publions les résultats de nos réunions. Certaines de ces réunions se passent en public. Il y en aura une jeudi après-midi, par exemple, pour la fin de la semaine. Et d'autres fois, dans l'année, nous avons des réunions au téléphone. Nous avons des retraites aussi du conseil. C'est bon de nous voir face à face aussi de temps en temps. La majorité de ce qui en ressort de ces réunions, c'est assez business. Ça se passe assez, ça se passe assez bien. Ce que j'ai observé durant les années passées, des sessions d'écriture de version préliminaire. On a l'impression que c'est facile, mais c'est en fait une pratique très difficile. Souvent, quand les choses sont faites au dernier moment, des mauvaises décisions sont prises. Il y a une perte de temps. C'est du temps amateur, disons. Une des choses que nous avons faites pour être plus professionnels dans la manière avec laquelle nous faisons nos versions préliminaires et que nous prenons nos décisions, nous avons demandé à ce que les membres du Conseil lisent les documents à l'avance. Nous demandons à ce que, s'il y a des problèmes qui doivent être soulevés par les membres, que ces choses-là doivent être résolues un peu plus à l'avance. Donc, lorsque la réunion prend place, nous sommes déjà au-delà de ça. Cela ne veut pas dire que tout le monde a le même avis. Absolument, nous insistons que chaque membre du Conseil doit voter selon sa conscience, prenne ses propres décisions, et cela a toujours été une bonne pratique qu'il a été suivi, que si un membre du Conseil vote contre quelque chose ou s'abstient, l'abstention est comptée comme un vote non, d'ailleurs. Nous demandons toujours à ce que cela soit mis dans le rapport, pourquoi il y a abstention ou pourquoi il y a eu un non-vote, disons. Souvent, cela est fait. Dans aucune circonstance, nous ne voulons empêcher quelqu'un de voter comme il le sent. Occasionnellement, c'est rare, mais cela arrive. Il y a des problèmes de contentieux. Les exemples que vous avez donc cités, par exemple, il y a 3 ans ici, un de ces exemples était qu'il y avait des différences d'opinion pour voir si nous étions prêts pour les programmes, lancer les programmes de GTLD. Il y a eu d'autres exemples importants, tels que le vote pour le triple X. Il y avait contentieux. Il y a eu des discours très passionnés là-dessus. Et quand cela se produit, il y a toujours, c'est un peu dramatique, disons, on a l'impression que les choses sont donc à ce moment-là très exposées. Mais pour moi, ça a été une leçon. Si quelque chose est sensible, un sujet est sensible, il est toujours mieux de rendre la chose publique que de ne pas le faire. Je me souviens plus exactement. Il y a une erreur avait été faite. Il y a quelques années, je me souviens plus. Nous avions une réunion du conseil sur le week-end, et ensuite nous avons eu une autre réunion publique. Et il y avait nous avions à faire avec le budget, puis renouvellement.com. Il n'y avait pas vraiment une question de faire passer telle ou telle décision. Le travail avait déjà été fait, publié, les commentaires avaient été faits à travers la formule publique. Les commentaires de retour que nous avions reçus nous disaient qu'il fallait qu'on fasse les choses de façon publique. Donc, même si on aime être assez efficace dans nos processus et très business, s'il y a des tendances ou si quelque chose est très sensible, si c'est possible, nous allons publier, nous allons rendre les choses publiques. Nous avons d'ailleurs deux réunions cette semaine. Nous en avons une demain après-midi. Elle sera avec porte fermée, d'ailleurs à huis clos. Et nous aurons aussi une session publique jeudi, et en divisant les matériaux qui vont dans telle ou telle réunion, l'avis général est que toutes les choses soient publiées d'une façon publique, disons. Je vais arrêter là-dessus dans une seconde. Je passerai à autre chose, mais je voudrais parler des résolutions que nous avons établies l'automne dernier. Il y a des moments particuliers et des mécanismes qui sont disponibles dans nos règlements sur la façon dont nous vont faire passer les résolutions, mettre les choses enregistrer les choses, mais ne pas forcément les publiciser. Nous avons réalisé que la publication des résolutions ne c'est pas forcément la chose appropriée à faire quand il s'agit de notre communication, des plans de communication, de nos négociations, parce que les choses sont des fois sensibles. Le fait que nous devons passer certaines résolutions ou de le faire de cette façon, c'est que pour nous assurer que ce soit clair que le Conseil a été informé et que le Conseil soutient les actions que le président va prendre. Et alors que ces choses s'élaborent, disons qu'il n'y ait pas de questions sur le fait que le président était responsable ou si le Conseil faisait attention à plusieurs choses que je voulais dire. Nous avons mis en place les choses très clairement et nous essayons d'avoir tout le travail, que le travail soit fait en externe. Je dis pas en externe des réunions du conseil, mais que le travail du Conseil soit du travail pour les membres du Conseil, c'est pour les mettre à jour et pour leur faire comprendre ce qui se passe. Et quand on en arrive à notre réunion formelle, que nous puissions faire nous occuper des affaires, de vos affaires d'ailleurs, d'une façon efficace. Il y a toujours maintenant des délais parce que nous avons des personnes individuelles qui ne sont pas au courant, qui doivent apprendre plus sur les sujets discutés. Elisa, nous ne nous reste que 20 minutes et je pense vraiment que nous voulons couvrir les problèmes des nouveaux GTLD. Serait-il une bonne chose de parler de cela? Steve, oui, ok. Olga? Je voudrais pas qu'il y ait confusion entre deux sujets, le côté fiduciaire et le côté transparence. Au niveau des devoirs fiduciaires, c'est très important que les membres du Conseil partagent avec vous comment est-ce que nous fonctionnons. C'est pas toujours clair. Quand on pense aux derniers 6-7 mois, les problèmes qui sont importants pour vous et qui ont généré beaucoup de retours, d'aller-retour entre le Conseil et le personnel, le Conseil et notre président. Il y a des réconciliations au niveau du clearinghouse, des génériques fermés, des avis NTA, tous les avis GAC. Tout cela et les exercices de nos devoirs fiduciaires génèrent beaucoup d'allers-retours. Ceci étant dit, c'est un dialogue très intéressant sur les problèmes séparés. Quand il s'agit de sur un problème, un autre problème tel que la transparence, ce que nous devrions et sur les outils que nous pourrions utiliser pour rendre le processus plus transparent. Fadi, je ne suis pas un avocat, mais un cas avait été très clair. Il y avait des perceptions. Il a été perçu que sur les décisions du Conseil. C'était un cas, d'ailleurs. Et quand Steve a réagi, on nous avait dit qu'il y avait des évidences à ce sujet. Une personne avait présenté ses évidences et cela avait été conservé d'une façon confidentielle pendant des mois. Nous ne pouvons pas construire une certaine perception sur ce peu d'évidence et utiliser le mot sentiment. Nous avons besoin d'évidence. Ce conseil a été très clair. Nous rendrons toutes nos résolutions publiques. Il y a une fois où ça s'est passé et aussi peut-être une fois sur une négociation de leasing. Vous comprenez que cela ne peut pas être public. Mais s'il n'y a pas d'évidence, j'ai l'impression qu'il y a une campagne de la part de certaines personnes pour construire cette perception et ce sentiment. Cela doit arrêter. Ce n'est pas le moment pour l'ICANN d'être exposé à des campagnes sans faits, sans preuves. Ce conseil a été sous très grosse pression pour faire son travail, livrer une certaine valeur pour être transparent et responsable. Le processus doit être juste. Il ne devrait pas y avoir d'accusations. Tout est public, tout est publié vis-à-vis de la presse. C'est clair ici. Et vous nous montrez telle ou telle évidence. Est-ce que c'est la seule évidence? Maintenant, vous savez que les résolutions du board doivent être gardées, conservées pendant 2 mois parce qu'il y a des sujets qui sont très sensibles. Et il doit y avoir des décisions qui viennent du gouvernement américain. Nous devons faire très attention à comment nous faisons face. Nous gérons cela, ces décisions. Donc, parlons de nos affaires. Parlons des nouveaux GTLD et les problèmes que nous devons résoudre avec tout le monde. C'est ça que nous devrions faire. Elisa, je suis d'accord. Nous devrions parler des problèmes des nouveaux GTLD. Je pense que si vous regardez, vous cherchez d'autres évidences, nous pouvons vous en fournir. Encore une fois, c'est une perception. Je veux que ICANN réussisse. Je veux que nous soyons tous du succès. Et s'il y a des campagnes qui existent, faisons ce que nous pouvons pour arrêter ces campagnes. S'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour vous aider, je vais demander à ce que l'on puisse vous aider. Nous allons vous aider. Fadi, oui, appelez-moi. Je vais appeler une réunion avec. S'il y a quelqu'un dans les communautés, entre les réunions, ça s'appelle les réunions ascendantes, que tout le monde participe à ce coup de fil et qu'on nous dise, oui, nous avons des évidences qui disent qui révèlent que vous ne faites pas les choses de façon ascendante. Il faut absolument qu'on arrête ces campagnes frivoles et nous avons beaucoup de travail, nous n'avons pas besoin de cela. Elisa, je suis d'accord. En attendant, j'aimerais parler de ces problèmes, de ces cas sur les nouveaux GTLD, des problèmes les communautés auxquelles les communautés font face. Je vais passer la parole à Christina pour souligner certains de ces problèmes. Nous avons aussi Tony Holmes en ce qui agit des conditions des noms. Madame Caroubo, sur les problèmes de pré-enregistrement, les annonces, les notices, Sunrise et Claudia De Ganji va parler des pratiques d'enregistrement que nous observons, que certains peuvent penser qu'ils sont un petit peu discriminatoires. Qui a le droit de faire quoi? Il y a 3 ans, lorsque nous étions là, dit Christina Rosette, nous avons parlé de l'exécution du programme des GTL, des nouveaux GTLD. Maintenant, nous sommes vraiment sur la voie. Nous avons bien commencé. Nous avons donc trouvé plusieurs problèmes. Notre unité constitutive pense que ce sont des problèmes vulnérables. Dans le contexte, quand on voit ce qu'ICANN a devant lui, nous devons vraiment adresser ces problèmes. Je vous donne un exemple du côté conformité. Dans le rapport conformité de janvier, il y avait un paragraphe court qui disait « Durant le mois de janvier, l'équipe de conformité, à travers le processus de résolution, a collaboré avec les opérateurs pour adresser les chèques pour, en ce qui concerne les extras, les rapports mensuels, la négation de l'accès. » Alors, les échecs par rapport au DPO, DATZ toutes les échecs qui subvenaient. Et depuis 31 janvier, il y a un TLD qui était en enregistrement général, 74 qui étaient dans la période Sunrise Si vous prenez tous ces chiffres et que vous prenez la promesse de conformité qui ont déjà été dans le rapport de du département de la conformité, quand vous voyez cela par rapport aux opérateurs de TLD qui vont opérer ces TLD, nous avons un problème significatif. Le IPC, CSG est très formel là-dessus. Il y a des points vulnérables. Et avec ça, je vais passer la parole à Tony qui va parler de collusion des noms. Steve, crois que vous voulez des réponses alors que vous posez des questions, ou vous voulez qu'on passe à ça après? Bon, ça c'est vraiment une question pour le management et pas forcément pour le conseil d'administration. Tony, Holmes, je vais essayer d'être bref. Le problème des collusions de noms a été soulevé. Les choses ont avancé énormément de ce côté-là. Certainement, les ISP, les entreprises, les business ont beaucoup travaillé là-dessus. Mais il semble qu'il y a un sentiment que ce problème a été adressé. Il est difficile d'adresser un problème quand on ne comprend pas l'ampleur de ce problème. Ça peut être quelque chose qui ne soit pas significatif, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver à une étape où les résultats, par exemple pour les collisions des noms, peuvent être vraiment peut-être une menace énorme. Il est difficile d'évaluer la situation. Je vais passer la parole à Mike O'Connor, qui est beaucoup plus près de ce problème que beaucoup d'entre nous. Il est très inclus, engagé dans ses activités, surtout pour mettre le point sur les mesures qui ont été mises en place. Ces mesures n'ont pas l'air de nous donner en ce moment les résultats que nous attendions. Mike, je comprends que nous n'avons pas beaucoup de temps. Je reviens de regarder l'ordre du jour du Conseil. On voit que c'est une conversation ouverte donc avec la communauté. Je veux voir si on pourrait réserver un peu de temps avec le Conseil plus tard. Est-ce que vous... quelqu'un en sait un peu plus sur l'ordre du jour, ou du moins l'emploi du temps, disons, du Conseil? Ce que disait Tony... Le rapport GS avait de très bonnes idées qui sont très encourageantes. J'apprécie vraiment le travail qu'a fait le personnel. Il y a des problèmes de sécurité qui n'ont rien à voir avec les problèmes de GTLD, des nouveaux GTLD, qui empêchent le GS de publier les données. Ça n'a rien à voir avec... le GTLD. Mais cela doit être résolu parce que c'est un problème de sécurité en substance important. Et la période de commentaires sur le rapport se termine dans quelques semaines. Ce problème de sécurité ne va pas être résolu d'ici le mois de juin. Nous demandons donc que nous laissions la période de commentaires ouverte jusqu'à ce qu'il y ait assez de données. Et il y a des choses intéressantes dont on pourrait discuter, mais nous n'en avons pas le temps. Steve Cocker, oui, c'est un bon point. Karen, je voulais dire rapidement qu'il y a un nombre de problèmes de conformité avec le nouveau GTLD. De ces problèmes, il y a des problèmes d'annonce, des notifications de Sunrise. Les 30 jours ne sont pas respectés, ne sont pas publiés au niveau public comme on nous l'a promis. Il y a des problèmes de pré-enregistrement qui, au niveau de l'enregistrement, qui à tous les niveaux... la responsabilité à laquelle nous attendons entre le registre et bureau d'enregistrement n'est pas là. Donc, il y a des interrelations qui sont concernantes. Surtout lorsqu'il Cela est important parce qu'au niveau EPC, nous sommes très spécifiques lorsqu'il s'agit de développer des notifications pour le clearinghouse, les notifications de réclame pour la clearinghouse. Non. Et aussi le préenregistrement, les notifications de préenregistrement ne sont pas satisfaisantes. Nous n'avons pas vu ces choses-là adressées par un département de conformité qui a de la canne, qui a trop de travail. Et alors qu'il y a plus de lancements, plus d'enregistrements qui sont introduits, nous devons être très conscients et nous devons voir comment est-ce que le département de conformité va être mis au courant. Lisa a dit nous allons parler des pratiques, ce qu'on appelle discriminatoires. Nous pensons qu'il y a certains registres qui ont des avantages qui ne sont pas justes. L'accord d'enregistrement, le paragraphe 3.3 dans l'accord d'enregistrement permet un nombre de noms qui soient réservés par le registre avant la période Sunrise. Et cela permet au registre d'allouer ces noms après la période Sunrise. Alors, il y aura une notice donc envoyée pour la... Certains des opérateurs de registre interprètent cela d'une façon que nous ne comprenons pas. Parce que si un propriétaire d'une marque déposée essaie d'enregistrer un nom durant la période, il reçoit un message qui dit que ce nom a été réservé par un opérateur de registre. Ce nom peut être ainsi vendu sur le marché. Il y a un programme de qualification de lancement que ICANN avait publié. Nous pensons que de façon générale, cela permet au registre d'utiliser jusqu'à 100 noms pour la promotion d'un TLD. Nous pensons que ces paramètres sont assez bons, mais nous pensons que ça peut aussi être complètement annulé par certaines erreurs. Ce qu'on a des noms premium, des noms principaux. Je ne pense pas que ce soit dans le contrat, mais ce sont des noms qui sont spécifiques à des domaines de second niveau. Beaucoup de ces noms correspondent à des marques déposées très connues. Et ceux-là se vendent à des prix très élevés. Et durant la période Sunrise, les prix sont très élevés. Et encore, notre inquiétude, c'est que nous avons souligné quelques solutions. Nous avons parlé des noms réservés. Par exemple, l'accord avec Lacan dit que ces noms réservés, cette liste peut être publiée. Si les noms peuvent être réservés, si ces noms ne sont pas dans le clearinghouse, par exemple, et ça pourrait être une approche où on pourrait demander, durant la période sunrise, ou pendant cette période où, 6 mois après, le propriétaire de la marque peut avoir une opportunité donc durant la période Sunrise et pour être notifié que quelqu'un d'autre a réservé ce nom, par exemple.
Elisa, au micro. Oui, je crois qu'il y avait plusieurs personnes qui voulaient répondre à cela. Steve, au micro. Oui, tout cela, ça se résout, ça peut être abordé au niveau du management. Donc, ça n'est pas le bon endroit pour poser ce type de questions. Fadi, au micro. Oui, ça... C'est le genre de thème qu'il faudrait qu'on aborde ensemble. Je m'en réjouis. Alors, j'ai envie de vous inviter à vous réunir avec le personnel ICANN. Je crois qu'Elisa, on n'a pas le temps aujourd'hui maintenant de le faire. Et je veux vous assurer que on non seulement on vous écoute, mais on s'engage, on comprend vos préoccupations et ce sont des choses que l'on peut faire au niveau du management. Mais nous aimerions écouter ce genre de préoccupations. Donc, organisons une réunion cette semaine, si ce n'est pas possible, immédiatement après, peut-être sous forme de téléconférence. Merci. Steve, excusez-moi au micro, puis-je intervenir très rapidement? Je me réjouis de voir que le dernier intervenant a fait des commentaires là-dessus, parce que si on va parler d'un processus ascendant, il est bon de faire des commentaires pratiques et des suggestions pratiques. Tony a parlé du manque ou de la perte potentielle. Alors, il y a un problème par rapport à la collision des noms, et ça existe depuis longtemps, au moins depuis 15 ans. À chaque fois qu'un nouveau GTLD est introduit, un nouveau CCTLD est retiré, alors il se pose le problème de la collision des noms, et je ne crois pas me souvenir que ça n'ait pas été le cas. Je ne crois pas que la préoccupation liée à la sécurité et soit aussi grave, comme Mickey l'a dit, et que les données ne sont pas révélées. Mais c'est plutôt prudent parce que on ne diffuse pas ce genre de choses avant que ça ne soit prêt. Donc, ce n'est pas une crise. Personne ne va mourir, mais il faut prendre les mesures nécessaires qui s'imposent et prudentes pour introduire les nouveaux GTLD dans le contexte de la collision de noms d'une manière générale. Donc, il y a des risques qui existent. Mais je crois que on a souvent eu tendance à prendre des décisions sans aucune justification. Je suis tout à fait d'accord avec vous, dit Steve. Ce n'est pas la faute de Mikey. En fait, l'erreur provient des collègues de du service technique avec lequel d'ailleurs j'ai des problèmes. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Je ne sais pas si Mikey veut intervenir là-dessus. Mikey, au micro. Oui, j'aimerais remettre tout cela en contexte, en perspective. Parce qu'il y a un excellent parallèle ici. C'est pas perfect. Parfait. Mais ce qu'on a eu dans une autre discussion, c'est deux types de personnes. Mon ami, Silver Crane, et les observateurs. Et le problème ici, du point de vue politique, c'était que aucun de ces groupes n'avait de données significatives pour étayer leurs décisions. Et c'est un bon parallèle. Je ne sais pas s'il y a un problème ici. Et les titulaires du nom de domaine qui ont été utilisés pour effectuer les mises à l'essai, les tests, n'ont pas semblé rencontrer de problème. Le problème, c'est que nous n'avons pas suffisamment de données à notre disposition. Donc, c'est un petit peu une situation où il faut se préparer au pire. Et ici, le message que j'essaie de transmettre, c'est que on a besoin de plus de données. Dernier mot, il y a eu beaucoup de séminaires là-dessus. Des chercheurs éminents dans le monde, des chercheurs qui ont un master, un PhD, l'ont dit et répété. On ne sait pas. Mickey, oui, je suis d'accord. Il faut maintenir ces commentaires ouverts au public. Il faut continuer à en parler, mais dédramatisons un petit peu le débat. Oui, Koi souhaitez intervenir. Koué, au micro. Oui, je voulais revenir sur un des problèmes qui a été élaboré, qui a été mentionné, sur le fait qu'il ne fallait pas forcément aborder ce problème ici. Je voulais vous demander d'être vigilant par rapport à d'autres problèmes soulevés par rapport au nouveau GTLD, ce sont les variantes IDN. Je sais qu'il y a un autre débat sur les variantes IDN par rapport au groupe des opérateurs de registres, mais l'impact véritable, il s'applique sur les titulaires des noms de domaine. La plupart d'entre vous, peut-être, parce que vous êtes un grand groupe international, la Chine, Taïwan, vous avez un nom de société. Mais il s'agit de voir les implications de cela, parce que à un moment ou un autre, ce problème va se poser. Elisa au micro. Mikey au nouveau micro. Nous, dans notre unité constitutive, on est très impliqués là-dessus. On a organisé des réunions, on a publié du matériel, on a diffusé du matériel. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a toute une série de problèmes techniques qui impliquent une sensibilisation mondiale et beaucoup de travail à accomplir ici, dans ce domaine. Steve Crocker, micro. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Bon, Elisa au micro, je veux remercier les membres du conseil d'administration et toutes les personnes ici présentes, les unités constitutives. Merci du temps que vous prenez pour prendre en considération nos problèmes. Effectivement, il faut s'assurer que l'ICANN réussit à appliquer ce modèle multipartite et on va continuer à participer et nous vous remercions de votre ouverture par rapport à nos suggestions. Steve, merci et merci d'avoir été spécifique dans vos commentaires. C'est une manière très utile de consacrer votre temps. Merci.